Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Stories, le podcast des disparitions de notre monde. Je devrais peut-être rebaptiser le podcast parce qu'il va être encore question de disparitions mystérieuses aujourd'hui. Donc on va parler des disparitions du triangle de Bennington. Avant de démarrer, je voudrais d'abord bien sûr vous souhaiter une bonne rentrée. Voilà, je sais que c'est une période qui est toujours un petit peu compliquée pour tout le monde. En ce qui me concerne, ça va être un peu chargé aussi. Et j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller, si vraiment vous voulez suivre mon actualité, la meilleure façon d'avoir des informations fraîches en temps réel, c'est d'aller sur ma page Facebook personnelle, donc Lionel Camille. Alors, il y a une page pour le podcast, hein, Lionel Camille Stories Podcast. Vous pouvez la liker, bien sûr. Mais vraiment, pour avoir toutes les infos, il faut aller sur ma page personnelle, donc Lionel Camille. Donc, ne soyez pas timide. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à me contacter. On peut sûr mettre un petit message, c'est toujours plus sympathique. Je lis tous les messages, je réponds. Parce que là, j'ai pas mal, d'ici la fin de l'année, d'émissions prévues. Sur Nuria TV, donc je ne veux pas rabâcher ça à chaque fois dans mon podcast, je veux pas que ça énerve certains, je sais pas, et même si selon moi ces émissions sont complémentaires de ce que je fais dans le podcast et de mes livres, voilà, tout est lié, et donc voilà, vraiment pour avoir des informations rapides et fraîches, vaut mieux aller sur ma page Facebook. Voilà, ça c'est dit, la porte est ouverte. Donc maintenant, on va passer au sujet de l'émission, les disparitions du triangle de Bennington. Vous connaissez le principe, on se lance tout de suite dans le récit. L'émission va être diffusée en deux parties. Donc aujourd'hui, première partie. Nous sommes en 1945. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'état du Vermont. Le Vermont est situé dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, plus précisément le Québec. Le Vermont est l'un des états les plus ruraux et les moins peuplés des USA. Il est cerné par les états du New Hampshire, le Massachusetts et l'état de New York. Petite bourgade d'environ 10 000 habitants, au sud-ouest du Vermont, Bennington jouxte le mont Glastonbury, dont l'altitude atteint 1142 mètres. Couvert de forêts denses, le mont Glastonbury, qui fait partie des Appalaches, est considéré comme l'un des endroits les plus sauvages des USA. Première disparition, Middle Rivers. Tout démarre le 12 novembre 1945. Middle Rivers, 75 ans, est un guide de chasse en forme physique exceptionnelle pour son âge. Ce jour de novembre, le temps est doux pour la saison, et Rivers conduit 4 chasseurs de cerfs dans la montagne. Vers 16h, notez l'heure, c'est important, Rivers ramène le groupe vers leur campement. À un endroit appelé El Hollow, le trou de l'enfer, Rivers part un peu devant les autres. Ces derniers pensent qu'ils vont le rattraper, mais lorsqu'ils atteignent le campement, le guide n'est pas là. Après l'avoir cherché sans succès, les chasseurs alertent les secours et pour la première fois, on organise une énorme opération de search and rescue sur le mont Glastonbury. Beaucoup de monde participe à l'opération de recherche et de sauvetage. La police, mais aussi la garde nationale, qui est l'armée de réserve, et même des Boy Scouts. Au départ, les autorités sont plutôt confiantes car Rivers connaît le mont Glastonbury comme sa poche. Il a toujours vécu dans la région et s'il y a bien une personne capable de survivre la nuit dans ce coin, c'est bien lui. Seulement, on n'aura plus jamais de ses nouvelles. Durant 3 jours, on cherche intensivement Rivers, sans résultat. La seule chose qu'on ait trouvée, c'est une cartouche non percutée au fond d'un ruisseau. Que Rivers aurait pu tomber en se penchant pour boire. Mais est-ce qu'elle lui appartenait vraiment? Apportons maintenant quelques commentaires sur l'affaire Middle Rivers. À l'époque, personne n'a compris ce qui a pu arriver à Rivers. Il est impensable qu'il se soit égaré. Même s'il avait divagué dans la nature des suites d'une attaque cérébrale, on aurait forcément retrouvé sa dépouille. Evers n'a pas non plus été attaqué par un animal sauvage, tel un cougar, parce qu'on aurait fatalement trouvé une scène de crime. Il faut rappeler que, quand un adulte se bat pour sa vie, on trouve toujours des traces de lutte, du sang et des morceaux de chair sur le sol. De plus, Rivers disposait d'un moyen de défense, il portait un fusil. Les équipiers de Rivers auraient entendu ses cris ou même des coups de feu. Notons qu'une arme à feu est aussi un excellent moyen de signalisation. En cas de problème, Rivers aurait tiré en l'air pour attirer ses partenaires. Là, ça a été le silence total. Selon moi, le scénario le plus vraisemblable est un accident de chasse maquillé après coup en disparition. Rivers aurait été abattu par erreur par un des chasseurs. Pour ne pas être inquiété par la justice, le groupe aurait enterré son cadavre et inventé cette histoire de disparition. Quoi qu'il en soit, personne n'a été accusé de faux témoignage par la police ou ne s'est jamais confessé, même des années après. Et l'affaire est restée irrésolue. La disparition de Minnie Rivers aurait pu rester assez anecdotique, un banal fait divers, sauf que, presque un an plus tard, il se passe autre chose. Deuxième disparition, Paula Weldon. Nous sommes le 1er décembre 1946. Paula Weldon est la quatrième fille de William Archibald Weldon, un riche industriel du Connecticut. Paula est une jolie fille de 18 ans aux longs cheveux blonds. Étudiante en deuxième année à l'université de Bennington où elle se passionne pour l'art et la biologie, Paula travaille à mi-temps au réfectoire en parallèle de ses études. Ce dimanche 1er décembre 1946, Paula fait le service du midi au réfectoire. Puis elle revient à la résidence universitaire dans la chambre qu'elle partage avec une autre étudiante dénommée Elizabeth Johnson. Selon sa colocataire, Paula a l'air préoccupée. Apparemment, elle n'est pas d'humeur à travailler ses cours. Aussi, Elizabeth lui suggère d'aller faire un tour. L'idée séduit Paula, qui est inscrite au club de randonnée de l'université. Elle demande à des camarades s'ils veulent l'accompagner, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut dire qu'il y a peu de monde sur le campus ce week-end-là. C'est Thanksgiving, une fête de famille populaire chez les Américains. Et la plupart des étudiants sont rentrés chez eux. Paula annonce finalement à sa roommate, Elizabeth, qu'elle part se promener seule sur le Long Trail, un sentier de randonnée dont le départ n'est qu'à quelques kilomètres du campus. Paula compte s'y rendre en autostop. Notez que le Long Trail est une section du célèbre sentier des Appalaches qui coupe le Vermont dans le sens vertical et passe à proximité du sommet du mont Glastonbury. Avant de partir, Paula se change de vêtements. Elle enfile un jean, des baskets et, détail important, une parka rouge avec une capuche en fourrure. Normalement, les étudiants qui rentrent après 23 heures doivent signer un registre à l'entrée de la résidence universitaire. Mais Paula ne prend pas la peine de remplir cette formalité, et ça paraît normal. Elle devrait être revenue bien avant le couvre-feu. En ce qui concerne la suite des événements, on a une bonne connaissance du parcours de Paula grâce à de nombreux témoins. Paula quitte le campus à 14h45. L'horaire est connu avec précision car Danny Fager, le propriétaire d'une station-service en face de l'université, voit une jeune fille correspondant à sa description sortir du bâtiment. Vers 15h, Paula fait de l'autostop jusqu'au départ du Long Trail. Louise Knapp, un habitant de Woodford, une bourgade proche de Bennington, la transporte sur la route d'État numéro 9 et la dépose à environ 4 km du Long Trail. Selon Knapp, la jeune fille a somnolé pendant tout le voyage. Paula finit le trajet à pied jusqu'au départ du sentier. Entre 15h et 16h, des personnes revenant de randonnée la croisent sur Harbour Road. Paula leur demande si le Long Trail est encore loin et où il mène. Jusqu'au Canada, lui répondent-ils. Ernie Whitman, un des témoins, est digne de foi puisqu'il travaille au Bennington Banner, le journal local. Les randonneurs font remarquer à Paula qu'elle n'est pas suffisamment couverte. De plus, elle n'a emporté ni eau ni nourriture, mais l'étudiante n'en fait qu'à sa tête. Même s'il est déjà tard, on est une heure avant le coucher du soleil, Paula s'éloigne seule sur le sentier, en direction du mont Glastonbury. Un couple de personnes âgées qui marchent à 90 mètres derrière elle la voit tourner un angle du sentier. Mais quand ils arrivent au même endroit un instant plus tard, elle a disparu. Paula s'évapore ainsi sur le Long Trail aux alentours de 16 heures. Ne voyant pas Paula revenir le dimanche soir, Elizabeth Johnson, sa camarade de chambre, ne s'inquiète pas outre mesure. Elle se dit que sa colocataire est allée étudier à la bibliothèque ou qu'elle est sortie avec des amis sans respecter le couvre-feu de 23 heures. Ne voulant pas lui attirer d'ennui, Elizabeth garde le silence. Mais le lundi 2 décembre au matin, Paula n'est toujours pas rentrée et Elizabeth prévient la direction de l'université. Après que l'établissement ait été fouillé de fond en comble, sans réussite, le directeur de l'université téléphone lui-même à M. et Mme Weldon, dans le Connecticut. Il veut savoir si Paula est chez eux, mais les parents de Paula tombent des nues. Proche de sa fille, William Weldon se rend immédiatement dans le Vermont. Pendant ce temps-là, la police locale, c'est-à-dire le shérif du comté, commence à enquêter sur la disparition de la randonneuse. Homme influent, M. Weldon fait marcher ses relations. Comme Bennington est une petite bourgade et qu'il n'y a pas de police d'État dans le Vermont, M. Weldon fait venir des hommes de la police d'État du Connecticut, qui est considérée comme la meilleure force de police des États-Unis à l'époque. Le père de Paula met sur pied une opération massive de search and rescue. Un maximum de moyens sont déployés. Des centaines d'hommes prennent part aux recherches. L'université ferme même ses portes plusieurs jours pour que le personnel et les étudiants puissent aider les secours. Pour la première fois, on utilise un hélicoptère pour retrouver une personne disparue dans le Vermont. Pendant deux semaines, on passe le long trail au Bonne Fin, ainsi que les sentiers secondaires. Chaque centimètre carré des bois est fouillé jusqu'à Glastonbury, 16 km au nord, et également vers le sud, jusqu'à Williamsburg dans le Massachusetts. Mais on ne trouve pas le moindre indice de Paula. Pas de traces, pas de corps, pas de vêtements, pas d'indices, rien. C'est comme si elle s'était dématérialisée en pénétrant dans cette forêt. Le plus étonnant, c'est que Paula portait une parka rouge, repérable de loin dans la neige. En effet, il a neigé dès le premier soir des recherches. Très vite, l'affaire Paula Weldon fait l'objet d'une forte médiatisation, y compris au niveau national. On va même en parler dans le prestigieux New York Times. Le gouverneur du Vermont demande l'aide du FBI, qui promet une récompense de $5,000 à quiconque offrira un tuyau permettant de retrouver Paula vivante. Mais ça ne sert à rien. L'échec est total, et les critiques ne tardent pas à fuser. On pointe du doigt les méthodes désorganisées des équipes de recherche. La police locale en prend aussi pour son grade. Incompétent, le shérif n'avait visiblement pas assez d'expérience pour gérer une affaire de cette ampleur. Pire, des erreurs grossières ont été commises. Rien n'a été conservé des 10 premiers jours d'enquête. Les policiers disent souvent que le retard perdu au départ d'une enquête ne se rattrape jamais, et ça va ici se vérifier. Passé le choc de la disparition, c'est l'incompréhension qui s'installe. Tout le monde se pose des questions, y compris la police. Les enquêteurs se demandent même si c'est vraiment Paula que les témoins ont vu le 1er décembre après-midi. En bref, on ne saura jamais quelles ont été les dernières heures de l'étudiante. Quelques commentaires maintenant sur l'affaire Paula Weldon. Si Paula a vraisemblablement connu un destin funeste dans les bois le 1er décembre 1946, ne pas avoir retrouvé son corps a alimenté quantité de rumeurs. Parcourons toutes les hypothèses évoquées à l'époque. Hypothermie. L'hypothermie, c'est la cause numéro 1 des disparitions. Paula serait morte de froid après s'être égarée dans les bois. Il faut savoir que les températures deviennent négatives la nuit dans le Vermont. Et si on n'a jamais retrouvé son corps, c'est en raison d'un phénomène appelé terminal burrowing, ou enfouissement terminal. En cas d'hypothermie sévère, un être humain aurait comme dernier réflexe de survie de s'enterrer ou s'enfouir sous des feuilles pour se réchauffer. C'est pour cette raison qu'on n'aurait jamais retrouvé la dépouille de Paula. Accident. Paula aurait tout simplement pu tomber dans un endroit inaccessible. Étant donné que la forêt du Vermont est très dense, on peut ne jamais retrouver un cadavre. Pour citer un autre exemple assez parlant, un jour un avion est tombé dans la forêt du Vermont. Et il paraît que les secours ont eu le plus grand mal du monde à retrouver l'appareil. Disparition volontaire. Si Paula n'avait pas de petite amie connue, Elizabeth Johnson, sa camarade, a déclaré à la police que peu de temps avant de disparaître, elle s'était disputée avec son père au sujet d'une relation sentimentale. Il semblerait que Paula avait rencontré quelqu'un et que M. Weldon réprouvait cette liaison. C'est pour cette raison que Paula n'était pas rentrée dans sa famille à Thanksgiving. Le dimanche 1er décembre 1946, Paula aurait ainsi rejoint ce mystérieux fiancé sur le Long Trail. Ils auraient quitté ensemble le pays pour refaire leur vie au Canada. Pourquoi pas ? Ce scénario fonctionne sur le papier, seulement j'ai du mal à y croire en raison de plusieurs détails. D'abord, c'est Elizabeth qui a suggéré à son amie d'aller se promener cet après-midi-là. Et dans un premier temps, Paula a proposé d'autres camarades de l'accompagner. S'ils avaient accepté, comment Paula aurait-elle mis son plan à exécution ? En outre, Paula a dormi à bord de la voiture de Louis Knapp, qu'il a pris en autostop. Ça ne ressemble pas au comportement de quelqu'un qui s'enfuit. On devrait être au contraire excessivement nerveux. Enfin, Paula n'a rien emporté avec elle et on ne l'a jamais revue nulle part par la suite. Reste la possibilité d'un suicide qui a aussi été évoquée. D'après son amie, Paula semblait tracassée en revenant du réfectoire. Souffrait-elle de dépression ? Impossible de se prononcer car personne n'a eu accès à son dossier médical. Au cours de sa balade, Paula aurait pu décider sur un coup de tête de faire une marche suicide. Elle se sera enfoncée dans la forêt jusqu'à ne plus avoir de force. En bonne condition physique, elle aurait pu aller très très loin dans les bois avant de succomber aux éléments. Citons maintenant une rumeur encore plus folle ayant émergé. Paula aurait tout quitté pour vivre en recluse dans la montagne. On peut éliminer raisonnablement cette possibilité. Issue d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre, Paula était probablement habituée à certains luxes et je l'imagine mal vivre en ermite dans les bois. Pour compliquer encore un peu plus l'équation, plusieurs témoins ont affirmé avoir revu Paula Weldon après sa disparition. Un conducteur de train l'aurait aperçu en Caroline du Sud, mais après vérification, on s'est rendu compte qu'il avait fait erreur. Une serveuse d'un restaurant de Fall River, dans le Massachusetts, à environ 300 km de Bennington, a certifié elle avoir servi une femme agitée ressemblant à Paula. Suite à ce signalement, M. Weldon s'est absenté 36 heures sans rien dire à personne. Peut-être pour vérifier sur place. En tout cas, cette attitude a généré de la suspicion à son égard. Ce qui nous renvoie à la piste suivante. La piste familiale. Paula et son père s'étaient apparemment disputés peu de temps auparavant, au sujet d'une relation sentimentale. M. Weldon aurait-il joué un rôle dans la disparition de sa fille ? Vu son statut social élevé, on peut concevoir qu'il ait bénéficié de protection de la part de la justice. Mais personnellement, j'en doute, parce que il adorait sa fille. De plus, M. Weldon avait un alibi solide au moment des faits. Il était dans le Connecticut. Quoi qu'il en soit, certains ont déploré que cette piste n'ait pas été davantage creusée. M. Weldon a de son côté accusé un fiancé secret d'avoir assassiné sa fille. Mais il y a un léger problème. C'est un médium qui lui aurait fait cette révélation. Et M. Weldon a évidemment été incapable de prouver quoi que ce soit. En ce qui concerne la piste familiale, il est difficile d'y voir clair, car Elizabeth Johnson, la roommate, a plus tard changé de version. Elle a expliqué que Paula était restée sur le campus le week-end de Thanksgiving, non pas en raison d'une brouille avec son père, mais pour passer plus de temps avec ses nouveaux amis. Passons maintenant à la piste criminelle. Quand on examine les faits, la probabilité que Paula Weldon ait fait une mauvaise rencontre sur le Long Trail est assez élevée. Elle aurait pu être victime d'un crime de rôdeur, ou bien sûr, d'un tueur en série. Le cadavre de Paula aurait très bien pu être enterré sur place, quoique, je suis assez sceptique. Creuser un trou dans le sol gelé est-il vraiment faisable ? J'ai pensé personnellement à un autre scénario. Si on n'a pas retrouvé le corps de Paula dans la forêt, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne se trouvait pas. Et si Paula n'avait pas été attaquée dans la forêt, mais en revenant à Bennington ? Paula se serait promenée sans problème sur le Long Trail, puis elle aurait refait l'autostop pour rentrer à l'université, comme elle allait. Mais seule, la nuit, au bord de la route, elle aurait fait une mauvaise rencontre. Un automobiliste ou un routier l'aurait neutralisée et ensuite emmenée loin du secteur. Le kidnappeur aurait même pu passer dans l'état de New York, très proche. Sachant que les différentes juridictions de police coopéraient peu à l'époque, c'était facile pour les criminels de passer entre les mailles du filet. Paula aurait-elle été victime d'un crime infâme? Impossible de le savoir. Pas de corps, pas de crime. Pour parachever le tout, cette affaire a également comporté son lot de fausses déclarations et de déceptions. En 1955, un bûcheron a confié à un ami savoir où Paula était enterrée. Sommé de s'expliquer par la justice, l'homme a finalement avoué avoir menti. Autre piste intéressante, 13 ans plus tard, on a découvert un squelette à Adams dans le Massachusetts, à moins de 50 km de Bennington. Bien entendu, les enquêteurs s'y sont intéressés, mais quand les résultats d'analyse sont tombés, ça a été la déception. Les ossements étaient trop anciens pour appartenir à Paula. En conclusion, l'affaire Paula Weldon est devenue un des cold cases les plus fascinants de l'histoire des États-Unis. La seule note positive, c'est qu'elle a conduit à la création de la police d'État du Vermont en juillet 1946.